Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Comme ça, ça va bien? Ok, bon, on y va. Comme je disais, bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'être là avec vous pour ces colloques. Alors, je remercie vivement Catherine Dolto et aussi Alain Vanier de m'avoir invité, de me donner cette possibilité de vous apporter un peu de mon travail. Alors, comme vous avez lu dans le résumé, je suis préoccupé à partir de cette idée un peu folle qui nous accompagne, ça fait quelques années, cette idée qui dit que bon, les enfants de nos jours sont très différents, trop différents des enfants d'auparavant. Alors, je vais essayer justement de élucider un peu cette idée. Et pour aboutir, je vais tenir en compte le texte de Freud, l'inquiétant étrangeté, qui va me permettre justement de faire travailler la différence entre trois personnages, l'étranger, les sauvages et l'extraterrestre. Et d'une autre part, bien entendu, la distinction faite par Françoise Dolto entre parler à l'enfant et parler de l'enfant. Alors, on a la sensation que les enfants d'aujourd'hui seraient plus intelligents, mais en revanche plus mal comportés aux sans limites qu'autrefois. Ils seraient si différents qu'on arrive même à penser qu'il ne s'agit plus d'enfants, ou que l'enfance est en disparition comme réalité psychique et invention sociétaire. Ces supposés déclins de l'enfance convoquent des sentiments dans une certaine mesure contradictoires. On espère que les enfants franchissent l'enfance et deviennent grands le plus tôt possible. De cette façon, les supposés nouveaux comportements des nouveaux enfants de nos jours sont reçus, bien qu'avec stupeur, comme indice d'une bonne nouvelle. D'autre part, on aspire, contradictoirement, que l'enfance soit vécue pour les enfants tous les temps nécessaires pour qu'elle soit, dans l'avenir, des personnes psychologiquement saines. Les soucis pour l'ainsi surnommée préservation de l'enfance motivent toute une série d'initiatives en vue de prévenir la maltraitance et les abus propres d'une mauvaise éducation considérée comme marque de temps passé. Cette différence considérable qui frappe les enfants de nos jours est l'objet d'un grand débat. On parle de satisfaire des nécessités de l'enfant avec majuscule, de prendre en compte des capacités singulières de l'enfant dans l'éducation, etc. Des connaissances spécialisées se structurent autour du fait de parler de l'enfant. On pense que c'est grâce au progrès scientifique que maintenant on aime véritablement nos enfants et que par conséquent la cause des enfants serait bientôt gagnée. Cependant, je me permets de suspecter que les choses ne sont pas aussi simples. La pensée aiguë de Françoise Dolto nous a déjà alerté sur le fait que les expressions « parler de l'enfant » et « parler à l'enfant » ne sont pas équivalentes. La différence entre une et l'autre demeure dans la reconnaissance ou non par l'adulte de son implication dans la vie auprès de l'enfant. Dans cet esprit, j'affirme qu'on parle beaucoup des enfants ou de l'enfant avec majuscule, mais je doute de la vraie disposition des adultes à parler avec un enfant. Cette différence soulevée par Dolto est fondamentale pour basculer l'impasse qui s'empare du débat sur les enfants de nos jours et la préservation au nom de leur enfance. Il n'y a pas de doute que les temps historiques changent. Malgré tout, je ne crois pas que la vie auprès des enfants, ce qu'on appelle l'éducation, évolue prise sur un supposé amour clair et distinct. Douter de l'évolution de nos mœurs ne signifie pas affirmer, au contraire, que le fil de l'histoire soit alors celui d'une dégradation des dispositifs sociétaires et symboliques. Ni évolution, ni dégradation, à peine des formes historiques de vie qui disent quelque chose de la forme dont nous nous rêvons nous-mêmes toujours autres, et donc aussi de rêver les rapports des constantes à inamoration, comme disait Lacan, avec ces petits êtres appelés enfants. Des enfants produits du malentendu qu'habite la vie sexuelle, qui ne cesse de ne pas faire famille. Mais, d'autre part, ceci ne veut pas dire non plus que tout est pareil dans la vie avec les enfants. Justement, de nos jours, on est facilement consolé, sachant que nous sommes capables de promulguer des lois pour garantir, comme par exemple au Brésil, même le droit des enfants au jeu. Cependant, je me demande jusqu'à quel point, tranquille d'esprit, nous réfutons la possibilité que l'infanticide soit encore présent chez nous. Bien sûr, les enfants ne meurent plus en masse asphyxiés sur le lit parental, mais ceci n'empêche pas que les journaux nous informent d'innombrables formes de leur donner la mort. Toutefois, j'aimerais attirer votre attention sur un infanticide que nous pourrions qualifier de symbolique. Aujourd'hui, on pêche pour une certaine omission en relation aux petits. Aux petits lâchés, lâchés spirituellement ou à la merci d'un véritable orphelinat institutionnel. La persévérance dans la bonté démocratique et dans l'amour des adultes, loin d'indiquer la reconnaissance de la nécessaire implication dans la vie avec les enfants, indique, à mon avis, le refus de maintenir ouvert la question qu'elle pose toujours. La question, c'est comment arriver à être sûr de quelque chose et en parler avec un enfant. Quand un enfant atterrit dans les bras d'une dame, celle-ci se voit face à la question d'accepter ou non d'être mère de ses petits qui arrivent au monde plus ou moins en étranger. Comme vous savez, les bébés dorment la journée, sont plus sociables les soirs, pleurent par des choses que les grands ne comprennent pas, font tout genre de grimaces, parlent une langue pas connue entre autres bizarreries par rapport à la vie déjà devenue quotidienne et familiale. Qu'un enfant soit accueilli comme s'il était un étranger n'est pas l'équivalent à ce qu'il soit pris pour un extraterrestre ou un sauvage. L'individu qui se considère civilisé veut prendre ses distances de celui considéré sauvage. S'il le considère un bon sauvage, il voudra l'étudier pour ainsi savoir la différence qui existe entre eux et ainsi dissiper l'étrange mystère qui autant avive l'un et angoisse l'autre. Au contraire, s'il s'agit d'un mauvais sauvage, le civilisé essayera de se débarrasser de la sauvagerie grâce à l'extermination. De l'extraterrestre, par contre, l'individu n'en voudra rien savoir, si ce n'est que maintenir toujours la même distance de lui. En somme, aussi bien l'un que l'autre sont traités différemment d'un étranger auquel on suppose, avec plus ou moins de sympathie, posséder des histoires de l'autre monde à nous raconter. Une maman parle à son bébé, étranger accueilli avec hospitalité, elle espère avec ça qu'il apprenne sa langue qu'on appelle maternelle de façon à ce qu'il puisse lui raconter des choses de cet autre monde d'où ils viennent. Une femme bâtie au désir de femme a d'habitude avoir affaire avec un homme dans la vie. Telle une preuve du malentendu qu'habille la sexualité, surgit un bébé qui relance la différence irréductible entre la femme et une mère. Sur ces particuliers, Dolto a sa façon affirmée. Le véritable instinct maternel n'existe qu'à partir d'une situation triangulaire avec le père de l'enfant. Ainsi, l'enfant relance la cause du désir et témoigne du manque des proportions sexuelles. L'arrivée d'un petit être implique un réarrangement du monde car il s'installe une différence qui, avec l'action du temps, met en marche l'éducation. Quand on parle à un enfant, on lui demande d'abandonner sa condition étrangère d'infance. Il n'y a pas de vestiges historiques de ce que les enfants ne soient pas mis à une certaine quarantaine du monde adulte. Ainsi, nous symbolisons pour nous-mêmes et pour les enfants la réelle différence existante entre eux et nous, le manque de proportion entre les générations. Pour qu'un adulte, ou plutôt un vieux, pour ainsi nous distancier de l'imaginaire psychologique, puisse advenir à la place d'un enfant, il est nécessaire alors que cet autre, qui est déjà là vieux, prenne comme métaphore l'inévitable rendez-vous manqué avec l'enfant. Quand le petit quitte son état de petit et passe à appartenir au monde vieux, l'enfance passe à exister comme perdue, comme si c'était la présence d'une absence dans un monde toujours vieux. Une enfance n'existe que comme perdue, refulée. Elle insiste comme différence temporelle et de cette manière nous laisse étranges face au présent et nous rendre étrangers en relation à nous-mêmes, ou si on préfère, fait de nous des vieux mais jamais des adultes. Quand un vieux rencontre un enfant, il s'y regarde comme si c'était un miroir. Il regarde les yeux dans les yeux, prétendant ainsi que de la profondeur de ses regards lui revient sa propre image à l'envers. Il espère retourner dans les temps pour profiter jusqu'à la dernière goutte de ce qui lui est resté de l'enfance perdue. Le savoir ainsi mis sur les comptes de l'enfant fait de l'enfant un étranger de qui on veut en écouter les histoires de notre monde. Ceci est en effet impossible, car nous prétendons que l'enfant nous raconte sur ces étrangers qui habitent en nous-mêmes. Cependant, le malentendu entre les générations n'empêche pas les dialogues. Au contraire, il l'alimente pendant qu'il rend possible l'éducation. Éduquer, pour Françoise Dolto, c'est susciter les forces créatives d'un enfant tout en lui donnant ses propres limites pour qu'il se sente libre de penser, de sentir et de juger autrement que nous, tout en nous aimant. Dans cette même direction, je tiens à dire qu'éduquer, c'est transmettre des marques symboliques qui permettent à l'enfant de conquérir pour soi une place d'énonciation dans le champ de la parole et du langage, à partir de laquelle soit possible s'élancer au désir. Le déroulement d'une éducation présuppose que l'adulte reçoive l'enfant comme s'il était un étranger, passible de devenir plus ou moins familier, mais jamais une copie, jamais un clone. La plupart des enfants arrivent à jouir d'une éducation dans la précise mesure de l'infantile et l'inquiétant étrangeté que chaque enfant finit par garder pour soi. Quelquefois, cependant, une éducation peut s'avérer un fait d'accomplissement difficile, car pour l'adulte en question, il en résulte être impossible dénouer le rendez-vous avec l'enfant. Ainsi, l'enfant reste à la merci du manque d'opportunité d'être différent tel il a été supposé. La supposition de l'exceptionnalité place l'enfant hors du lien social, où les familiers et l'étranger sont les côtés de même ruban de Moebius. L'éducation, tant d'un sauvage que d'un extraterrestre, sont a priori des faits d'un accomplissement difficile. Ce sont des contradictions. Une éducation ne peut avoir lieu que si, au rendez-vous manqué avec un enfant, on se permet, l'adulte se permet, d'accueillir le retour de notre propre étrangeté. Tant les sauvages comme les extraterrestres sont des figurations de l'impossibilité même d'accueillir le retour de la différence entre les sexes et les générations. Le XIXe siècle débutait à Paris et Jean Itard, médecin à l'Institut national des jeunes sourds, décide de se consacrer à l'éducation d'un enfant trouvé dans les forêts d'Aveyron. Ce fut un geste avant-gardiste. Le célèbre Philippe Pinel déclara au contraire que cette tentative était déjà inutile. L'éducation des Victor, c'est comme ça que la femme a été appelée, fut scellée par une espèce de pari entre les deux scientifiques, Philippe Pinel d'une part et Jean Itard de l'autre. Itard prétendait démontrer la vérité de ses thèses sur l'acquisition du langage et le développement intellectuel de la célèbre statue de Condillac. L'échec du médecin se révéla énorme. Le destin de Victor fut pour le moins funeste. Comme avait dit Maud Manoni, Jean Itard fut incapable d'apprendre de son fracas. Il ne put jamais apprendre, quoi que ce soit, de cet étrange à lui-même. Sa persévérance pédagogique servit de bouclier contre le retour de la différence, ou comme le dirait Françoise Dolto, de cette vérité intérieure que la vie en compagnie de tout enfant relance d'une fois à l'autre. Victor fut reçu comme s'il était littéralement un enfant sauvage. Il était appelé comme ça, enfant sauvage. Il n'était muni ni d'intelligence, ni d'envie de se communiquer. Justement, Itard, à l'inverse d'une maman, n'était pas disposé à parler à l'enfant. Au contraire, il s'est consacré à parler de lui à d'autres. C'est ainsi qu'il a écrit des rapports scientifiques sur Victor et sa résistance à rester toujours sauvage. Le fait de parler des besoins, des compétences de l'enfant est un langage spécialiste. Les spécialistes, au nom d'un savoir générique, parlent de l'enfant avec majuscule, à d'autres, à l'autre. Quand ils s'adressent la parole à un enfant, ils le font inévitablement au nom de ce savoir sans nom propre. Au contraire, le fait de parler à un enfant engage la reconnaissance dans la propre implication subjective dans une éducation, c'est-à-dire comment chacun de nous célèbre, élabore cela étranger en nous-mêmes. La familiarité est fabriquée au risque d'une étrangeté qui réclame une éducation comme complément toujours impossible. Les trois termes étranger, éducation et famille maintiennent entre eux une relation broméenne de forme que la logique éducative est toujours de l'ordre du supplément et pas du complément. Par contre, sauvagerie, éducation et famille sont des registres qui ne se croisent jamais. D'autre part, la extraterritorialité ne forme non plus un nœud boromène avec famille, éducation. De l'extraterrestre, on espère pouvoir toujours en échapper, soit à maintenir toujours une distance de manière à rester intouchable. Au contraire, l'éducation pour un sujet consiste à adresser la parole à un enfant, de parler avec lui. Comme disait ma grand-mère, de paroles vides entrent par une oreille et ressortent par l'autre. Mais celle qui compte, c'est la parole ayant la possibilité de trouver sa propre plénitude, c'est-à-dire de se déplacer et de se condenser en d'autres de façon à découper à l'horizon la question. Que veut celui-là qui ainsi me parle? Cette question, sans réponse conclusive, indique, sans le signifier, le désir en cause dans l'acte éducatif. La thèse que les enfants de nos jours sont différents n'est pas nouvelle. C'est curieux de constater comment, au long de l'histoire, les vieux de Platon ont toujours décerné les mêmes attribut chez les nouveau-nés. L'enfant ne peut moins faire que venir au monde, toujours marqué par la différence de comment le vieux se perçoive et même. Donc, l'effet que maintenant on insiste tant sur la dite différence des enfants est voyant. Alors, si les enfants de nos jours semblent être sauvages ou quelquefois extraterrestres, avec une certaine facilité, il y a donc quelque chose qui ne marche pas bien dans le monde, mais dans le monde des adultes. Une différence ne peut que résulter en plus du même. La différence rénove la dialectique étrange familiale. Au contraire, le détail de la vie quotidienne actuelle en compagnie des enfants ne sont pas suffisants pour faire le recyclage de cette inquiétante étrangeté que l'arrivée d'un bébé produit. Ainsi, l'image de l'étranger passible de devenir un familier cède sa place au personnage sauvage ou à l'extraterrestre. Prétendre adapter l'éducation aux enfants si différents, mais si différents de nos jours, est de mauvais augure. Il n'y a pas d'éducation ni filiation possible, humanisant, si l'enfant est marqué à feu par la sauvagerie ou la extraterritorialité. Alors, si les enfants restent à la merci d'un certain orphelinat symbolique, c'est parce que nous-mêmes, nous avons reculé dans l'acte d'éduquer. Le renoncement à l'éducation est une forme d'infanticide. Le renoncement à adresser au nom propre la parole à un enfant est la marque de comment on ne reconnaît pas l'enfant, l'unique droit qui compte, le droit de revendiquer une éducation. Pour que les petits puissent jouir une place dans le monde, une simple place dans le monde, on doit se donner le temps pour que notre vie quotidienne, dans ses moindres détails, ait quelque chose d'étranger au présent, à la soi-disant réalité, au marché financier et à ce qui se passe à la télé. Françoise Dolto disait: ce ne sont pas les gestes qu'il faut changer, c'est notre attitude intérieure. C'est dans cet esprit qu'on doit se donner le temps pour ainsi donner le temps au temps de l'étranger, revivre le familier et vice-versa. Ceci est notre devoir, à moins que même les enfants de nos jours n'arrivent à conquérir un peu de vieillesse. Merci de votre attention.
Merci Léandro pour ce magnifique exposé.